En réalité, je pense pas, parce qu'en réalité, les compositeurs étaient au service de ces princes. Et étant au service, ils étaient un tout petit peu coincés quand même. S'ils voulaient un peu d'argent, il valait mieux ne pas trop s'engager. Alors, ils s'engageaient un peu après, ils réagissaient de manière un peu plus sibylline, discrète. Mais au moment même ou avant, ils ne le faisaient pas. Je ne pense pas. Il y a probablement des exemples. Mais est-ce qu'ils ont été édités après? J'en sais rien. C'est plutôt les engagements, après.
D'accord. Je faisais ce parallèle où parfois le théâtre,
oui, c'est vrai,
des périodes,
mais il y avait probablement des choses.
Il y avait des contestations,
comme ça.
Bon. C'était une question que je me posais comme ça en fin d'émission.
C'est intéressant. Il faudrait faire une émission spécifiquement sur ça, sur le rôle de la musique et le rapport avec les grands. Ouais.
Tout à fait. On rappelle un Sacre du printemps qui est du 18 au 29 mars.
Oui, tout à fait. Toutes les informations sont sur le site unsacredupritemps.fr. Les réservations sont possibles, évidemment encore.
Et les billetteries sont en numérique, enfin sont sur le site internet également.
Oui, c'est ça. Cette année, on passe avec Eloasso, qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez fluide et simple. On peut aussi venir au moment du concert. Pour la plupart des concerts, il restera des places. Peut-être pas pour le concert de clavicorde, mais pour les autres concerts, il n'y a pas de problème de jauge. Donc venez, n'hésitez pas. Et puis vous en aurez plein les oreilles, plein les yeux, et puis vous découvrirez probablement des choses que vous ignoriez.
C'est ça, vous avez découvert des choses que vous ne vouliez pas savoir parce que
exactement.
Vous ne saviez même pas que ça existait.
Probablement.
C'est exactement
probablement.
Ça. Non, mais c'est exactement ça l'idée. Je me permets d'ajouter un Sacre du printemps, bien entendu, pour le musicophile averti, mais aussi pour le grand public. Ouais, mais c'est justement ce grand écart, c'est ce que permet un Sacre du printemps.
C'est-à-dire qu'on n'est pas
d'oreille.
Il n'y a pas de contraintes, ni d'habit, ni de présence. Chacun vient comme il est. Et voilà. Et notre équipe de bénévoles va exactement dans ce sens. On est dans l'ouverture maximale.
Merci à toi, Bruno, d'être passé. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 40 minutes, vos réactions sur les tensions au sein de l'exécutif sénégalais entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Mais d'abord, toute l'info, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Anne Gomez et à tout à l'heure. À la une, Emmanuel Macron appelle Israël à clairement renoncer à toute offensive terrestre au Liban et appelle le Hezbollah à immédiatement mettre fin à ses attaques alors que des explosions étaient entendues à l'instant au-dessus de Jérusalem et que l'armée de l'État hébreu continue de bombarder le Liban. 11 nouveaux morts cette nuit, plus de 630 depuis le début du conflit. Reportage à suivre à Beyrouth dès le début de ce journal. La capitale libanaise qui espère et attend l'aide humanitaire. Une guerre déjà finie, selon Donald Trump, le président américain qui fait face à une opinion publique très défavorable au conflit. Et puis dans ce journal, nous serons aussi en Éthiopie où des officiers de la marine ont été promus. Une bien étrange nouvelle pour un pays enclavé. Nous serons aussi en France à 3 jours des municipales. Et puis enfin, soirée de gala, soirée de carton en Ligue des Champions. Le Real qui balaye Manchester City 3-0 en 8e de finale aller grâce à un très grand Fede Valverde. Le Liban qui paye la guerre au prix fort. 11 nouveaux morts cette nuit, tués dans des frappes israéliennes. 3 dans la banlieue sud de Beyrouth et 8 sur le front de mer de la capitale. Les chiffres du conflit sont toujours plus alarmants dans le pays. Plus de 800 000 déplacés, plus de 630 personnes tuées lors de bombardements israéliens et l'aide humanitaire internationale qui commence tout juste à arriver. La France notamment a annoncé l'envoi de 60 tonnes d'aide humanitaire. Reportage dans la capitale libanaise, Abla Junaidi avec Jadel Khoury.
Dans le quartier de Fourne Chebbek à Beyrouth, une branche de l'université libanaise a ouvert ses portes à 500 déplacés. Ce mercredi, une ONG distribue enfin de l'aide alimentaire sur place. Mira Yahya travaille pour les opérations d'urgence d'Action contre la faim.
La ration alimentaire est composée d'ingrédients prêts à l'emploi. Pas besoin de les cuisiner comme des pois chiches, des fèves, des biscuits ou des fruits secs.
Narges, qui a fui le sud depuis la banlieue sud de Beyrouth, aimerait offrir plus à ses 6 enfants.
Mon mari est taxi, mais il n'y a plus de clients. Avant, je trouvais des gens pour me dépanner, comme ma sœur ou mon frère. Mais là, on est tous dans le même bateau.
De guerre en crise, la solidarité s'est épuisée, comme le corps de tous ces déplacés endormis à même le sol. Mahmoud, jeune volontaire, veille sur eux avec l'énergie qui lui reste.
C'est le mois de Ramadan. Les gens jeûnent du matin au soir. Il leur faudrait des repas riches pour tenir. Ça, c'est vraiment un problème.
Le plus grand besoin, c'est d'en finir avec cette guerre, soupire le jeune homme. Derrière lui, comme en écho, des enfants chantent « Donnez-nous la paix » comme des générations avant tout. Abla Jounaïdi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Une guerre d'usure promettait à Iran une guerre déjà finie, selon Donald Trump, pour qui l'Iran est proche de la défaite. Le président américain a ajouté que les États-Unis étaient en capacité de rendre toute reconstruction de l'Iran presque impossible. Donald Trump contraint de temporiser face à une opération militaire impopulaire auprès de l'électorat américain. 53% d'opinions négatives et facteur d'instabilité pour les marchés financiers, Vincent Souriau.
Pour la énième fois, devant un public conquis, Donald Trump s'attarde sur le nom de code de sa guerre en Iran. Fureur épique, Epic Fury en anglais. Un nom comme ça, dit-il, ne fonctionne que si vous gagnez. Et ça, c'est déjà fait, assure le président américain. Is that a
great name? C'est pas un nom génial, ça? Mais ça ne marche que si on gagne. Et on a gagné. Croyez-moi, on a gagné. On n'a jamais envie de le dire trop tôt, mais on a remporté notre pari. Dès la première heure, c'était fini.
Manière de rassurer les marchés financiers et son électorat qui ne veut pas d'un nouvel enlisement après l'Irak ou l'Afghanistan. Mais il y a un bémol, si le conflit est gagné, pourquoi continuer? Réponse toute faite du président américain.
On n'a pas envie de partir trop tôt, n'est-ce pas? Il faut terminer le travail, pas vrai?
D'ici là, le prix du pétrole s'envole de nouveau et les États-Unis vont mettre sur le marché 172 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques pour tenter de rectifier le tir. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et le prix du baril de Brent est remonté au-delà de 100 dollars malgré l'annonce de déblocage de stocks massifs par l'Agence internationale de l'énergie. Une quantité record de 400 millions de barils vont être déstockés par les 32 pays membres. Des informations à retrouver sur notre fil en direct. Rendez-vous sur RFI.fr. RFI, il est 11h05 à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs officiers de la marine ont été promus cette semaine. Une annonce qui peut surprendre pour un pays enclavé et sans fleuve navigable. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed a recréé une force navale et cherche un accès à la mer pour son pays. L'objectif, renforcer la souveraineté nationale et réduire la dépendance avec le port de Djibouti par lequel passe presque tout son transit commercial. Clotilde Hazard.
Un immeuble, mais pas de flotte. La marine éthiopienne dispose d'un grand bâtiment moderne pour son état-major, flambant neuf, dans la capitale, inauguré en septembre dernier. Comme un symbole de la renaissance de la marine, voulu par le Premier ministre Abiy Ahmed. Dès 2019, un accord est signé avec la France pour la formation de ses officiers, entraînés principalement dans la base française de Djibouti. Plus récemment, l'Éthiopie a aussi signé un accord avec la Russie il y a un an pour développer ses capacités navales. Des capacités qui restent pour le moment encore à l'état embryonnaire et surtout sans port d'attache. Mais le Premier ministre Abiy Ahmed est déterminé à trouver un accès à la mer Rouge. Il le répète, c'est vital et existentiel pour les 130 millions d'Éthiopiens. En 2024, l'Éthiopie a signé un accord avec le Somaliland pour exploiter une partie du port de Berbera et ne masque pas sa volonté d'avoir accès au port d'Assab en Érythrée, que le gouvernement désigne comme le port naturel et historique de l'Éthiopie. Une requête qui alimente les fortes tensions entre les deux pays.
L'Érythrée où la marine éthiopienne était basée avant d'être supprimée à l'indépendance du pays en 1993. Au Congo-Brazzaville, l'élection présidentielle se tient ce dimanche. Denis Sassou Nguesso, qui a passé en cumulé 41 années à la tête de l'État, brigue un cinquième mandat consécutif. Un vote qui débute dès ce jeudi pour les militaires. Ils votent par anticipation. Demain, ce sera le dernier jour de meeting. Et puis on y reviendra ce soir dans Afrique Soir, une première édition à ne surtout pas manquer à 18h30. Temps universel, car le nouveau lauréat du prix RFI Découverte sera révélé. Annonce faite par le président du jury, un certain MC Solar, qui nous fera le plaisir de venir dans nos studios. Une élection également dimanche en France, un scrutin municipal sur lequel Reporters sans frontières alerte et pointe les fragilités du secteur de l'information locale. Fermeture de journaux en cascade, réduction d'effectifs et menaces contre les journalistes. La presse locale est sous pression, mais elle reste un pilier dans la vie de beaucoup de Français, en témoigne le dernier baromètre en date, l'OECAL.
L'information locale en France, c'est d'abord un paysage riche, explique Laure Chauvel, responsable du bureau France de RSF.
On parle aujourd'hui de la presse écrite locale, mais également les chaînes de télévision locales, les stations également de radio locale, que ce soit les radios publiques, mais également les radios associatives, par exemple.
Mais partout sur le territoire, la présence de journalistes diminue.
Plusieurs facteurs, à la fois des journalistes qui partent à la retraite et qui ne sont pas nécessairement remplacés, mais également par une soutenabilité économique des médias locaux qui est très fragile et qui crée donc un vide de plus en plus flagrant. Par exemple, dans l'ex-région Poitou-Charentes, on compte 25 journalistes pour 100 000 habitants.
Des journalistes moins nombreux, mais surtout surexposés aux menaces, alerte le rapport d'RSF.
Le journalisme local est davantage exposé que le journalisme national. Enquêter sur l'industrie du coin, sur l'élu local de la commune à côté de chez soi, et ben nécessairement, ça expose davantage le journaliste.
La sortie de ce rapport à la veille des élections municipales n'a rien d'un hasard.
Sans information locale fiable, indépendante et pluraliste, aucun citoyen ne peut s'insérer sereinement dans le débat démocratique et ne peut voter sereinement.
En cette période électorale, la presse locale doit aussi faire face à un autre fléau, la multiplication de faux titres de presse locaux derrière lesquels se cachent d'importants réseaux de désinformation.
L'élection municipale que nous suivrons tout le week-end sur RFI. Et puis enfin, la Ligue des Champions nous offre décidément de beaux cartons. Après ceux de Bayern Munich ou de l'Atlético de Madrid la veille, c'est au tour du PSG de briller. Les Parisiens tenant du titre accueillis hier Chelsea en huitième de finale aller au Parc des Princes. Un pari de gala vainqueur 5-2. Les quarts de finale sont en vue aussi pour le Real Madrid, vainqueur haut la main du choc face à Manchester City. Succès 3-0 grâce à un triplé du capitaine uruguayen Federico Valverde. Le quotidien français L'Équipe lui met 10 sur 10 ce matin dans les pages du journal. Son coéquipier Aurélien Tchouaméni aussi.
Ouais, 10 partout, triplé, c'est ça. Et non, surtout la débauche d'énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui lâche jamais, qui donne toujours tout pour le Real. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir dans notre équipe. Fédé, c'est un joueur de classe mondiale. On a beaucoup de joueurs de classe mondiale dans notre équipe. Et les grandes soirées sont faites pour les grands joueurs. Donc on est content de le voir à ce niveau-là. On est au Real. La vérité, c'est qu'il faut pas trop s'attarder à ce que les gens pensent de nous, pardon, individuellement. Comme je le dis souvent, le plus important, c'est d'arriver sur le terrain, faire son boulot, rentrer à la maison, c'est tout.
Aurélien Tchouaméni au micro de nos confrères de Canal+. 10 sur 10 aussi ce matin pour Juan Gomez qui est prêt pour son triplé et pour appel sur l'actualité.
Je suis prêt tous les matins à cette heure-ci, mon cher Martin Guez. Bonne journée.
Bonne journée.
Vous revenez demain, évidemment, dans la matinale de RFI. Il est 8h10 en temps universel. Dans 30 secondes, on se retrouve à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Julien Tron. Put on.
Grimace.
Vous êtes toujours à l'écoute de...
Principe Actif, le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
Y'en a foutu la lumière. J'ai pas vraiment la pression. Le test n'est pas me coller dans mes têtes. C'est plus c'est un qu'à ma porte. Et je vais faire volontaire.